Quand la terre nous est comptée avec Gilbert Gournault.
Bonsoir. On va pas punir ceux qui sont à l'heure, donc du coup, on va y aller. Donc nous serons deux à intervenir, venus tout spécialement de Savoie pour vous. Incroyable. Guillaume, ici, voilà, qui est paysan maraîcher et bientôt paysan maraîcher terre de liens. Voilà. Pas encore, parce que la signature de sa ferme, de l'achat de sa ferme n'est pas encore fait, mais ça ne va pas tarder. Mais auparavant, je vais vous raconter l'histoire d'un pauvre berger. Un berger qui avait quelques brebis, mais qui n'avait pas de terre à lui. Du coup, ses brebis, il les faisait pâturer sur le communal. Voilà, ben c'est bien parce que tout le monde peut arrêter les petites machines à faire de la musique. Voilà, n'oublierez pas de les rebrancher en partant. Voilà. Et donc, ce pauvre berger-là était obligé de faire pâturer ses brebis sur le communal. Vous voyez ce que c'est le communal ? C'est l'herbe dans le fossé au bord de la route, vous voyez, à peu près un peu plus, mais voilà, à peine plus. Du coup, il était obligé d'aller travailler chez les autres. Bon, les autres, c'est les riches, hein, voilà, le plus riche du village. Alors lui, bien sûr, il prenait moins de peine que le pauvre berger. Il avait des bergers à lui qui s'occupaient des bêtes là-haut à l'alpage. Et lui, il se promenait de temps en temps. Il allait prendre des nouvelles de ses troupeaux. Il redescendait. Il prenait du bon temps. Il était marié à une belle femme. Et notre pauvre berger se disait que lui aussi, il aimerait bien un jour devenir riche, avoir beaucoup de terres, être marié à une belle femme. Hein, toutes ambitions qui sont fort légitimes, vous serez d'accord avec moi. Et puis il se disait, et puis avec toute la peine que je prends, tout le mérite que j'ai, je mériterais bien, moi, un jour aussi, de devenir riche et de rencontrer une belle femme. Mais il me faudrait de la terre pour avoir plus de brebis, bien sûr, et gagner des sous. C'était son obsession. Alors, les amis qui sont toujours de bons conseils lui ont dit « Écoute, tu devrais t'aller voir Madame Saffaire. Il paraît qu'elle, elle en a de la terre. » Et notre pauvre berger s'est rendu chez Madame Saffaire, lui a expliqué son problème, qu'il lui manquait de la terre pour ses brebis. Madame Saffaire lui a répondu qu'elle avait bien de la terre de temps en temps, mais que cette terre-là, il fallait l'acheter. Et que pour l'acheter, il faut des sous. Pauvre berger s'en est retourné, penaud. Les amis, toujours de bons conseils, lui ont dit « Mais les sous, c'est facile. Il suffit d'aller voir ton autre voisin, monsieur Crédit Agricole. » Alors il est allé voir l'autre voisin, monsieur Crédit Agricole. Il lui a raconté que, bien sûr, il avait besoin de terre et de sous pour acheter la terre. Monsieur Crédit Agricole a dit « Mais de combien disposez-vous d'apport personnel ?» De quoi combien avez-vous de sous ? Ben, je n'en ai pas, je viens en chercher. Ah oui, mais si vous n'en avez pas, c'est que vous avez les poches percées. Nous ne prêtons pas à ceux qui ont les poches percées. Notre pauvre berger était aussi pauvre qu'avant. Et là, l'un de ses voisins lui dit, écoute, il faut toujours aller tout droit vers le plus important. Il y a quelque part au centre de ce grand pays qu'est la France, le grand ordonnateur des veaux, vaches, cochons, couvées, labourage et pâturage, mamelles de la France, le grand sinistre de l'agriculture, en la capitale de ce grand pays. Il te faut aller le voir. Le berger s'est mis en marche. Il est allé jusqu'en la capitale et, extraordinaire, il a fini par réussir à se faire accueillir par le personnage fort important, le grand sinistre de l'agriculture. Et il lui a raconté qu'il avait besoin d'un peu de terre supplémentaire pour faire pâturer ses brebis, pour agrandir sa ferme. Et là, le monsieur en question lui a dit « Moi, la ferme idéale, voyez ce que c'est, moi, la ferme idéale, c'est une ferme de taille européenne. » Voyez. Une ferme de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Ça, c'est une belle ferme. Et il n'a pas écouté du tout ce que lui disait le pauvre berger, qui s'en est reparti fort penaud. Mais l'une des personnes qu'il a rencontrées en la capitale lui a dit « Dans ton retour, tu peux faire un petit détour et t'en aller voir un autre personnage fort important » qui est le grand ordonnateur d'une secte de paysans, le grand ordonnateur de la FNSEA. Alors le berger s'est dit, puisque je suis là, que ça ne fait pas un grand détour. Il est allé voir le grand ordonnateur de la FNSEA. Et là aussi, il a réussi à se faire introduire. Et ce personnage fort important a écouté sa requête. Il avait besoin de quelques hectares de terre. Il ne savait point comment faire. Et cet homme-là lui a dit, une grande ferme, regardez ce que c'est une grande ferme, moi. 500 hectares de belles terres à blé. Regardez comme c'est beau. Et c'est vrai qu'il avait traversé cette plaine de blé, le pauvre berger. Il en était fort étonné d'ailleurs. Et là, le grand ordonnateur a continué en disant, et moi, là, sur ces grandes étendues de terre à blé, j'ai des tracteurs qui roulent tout seuls, guidés par le GPS. Le berger ne comprenait rien. Guidé par les étoiles, a fait l'autre. Des tracteurs guidés par les étoiles. Il était content de son voyage. Vous imaginez la merveille. Guidé par les étoiles. Et puis, le pauvre berger a dit, est-ce que je pourrais poser une question, parce qu'il y a quelque chose qui m'étonne un peu. J'ai traversé toute cette grande plaine à blé et je n'ai point vu d'oiseaux, je n'ai point vu surtout de buissons. Expliquez-moi comment font les oiseaux pour faire leur nid s'il n'y a pas de buissons. Et là, le grand ordonnateur lui a dit, de la FNSEA, lui a dit, c'est simple, il n'y a pas de problème, les oiseaux n'ont pas besoin de faire de nid ici. Oh, extraordinaire, des oiseaux qui n'ont pas besoin de faire de nid. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'oiseaux, bien sûr. Quelle merveille! Des oiseaux qui n'ont plus besoin de faire de nid. Enfin bon, il n'avait pas résolu son problème, notre pauvre berger, alors il est reparti. Il est reparti vers ses montagnes, il s'est mis en chemin, il a encore croisé un personnage assez bizarre, un grand bonhomme avec un grand chapeau, puis des étoiles, un chapeau comme un grand tuyau, vous voyez, avec des étoiles tout le tour du chapeau, et dessus il avait marqué Taffeta. Il l'a salué, il a dit « Bonjour, monsieur Taffeta ». Puis comme il était toujours obsédé par son histoire, il lui a raconté son histoire de pauvre berger qui avait besoin de terre. Et là, l'autre l'a arrêté et lui a dit « Quand je serai là, il n'y aura plus de pauvre berger ». Il était surpris, il n'avait rien compris, alors il est reparti. Il s'est mis en chemin. Il a fini par arriver, c'était le printemps. Il a fini par arriver sur l'avant-pays, les collines, les premières collines d'où l'on commence à deviner au loin l'horizon des montagnes enneigées. Vous voyez, au printemps, il s'est assis dans l'herbe. Là, ça sentait bon, c'était merveilleux. Et puis, il a regardé ces montagnes. Et puis, dans le fond du cœur d'un berger, il y a toujours un peu d'optimisme, un peu d'espoir. Parce qu'un berger, ça sait que quel que soit l'hiver qu'on a passé, toujours, quand le printemps arrive, ben arrive aussi le moment de l'agnelage et tout ça. Et donc, il s'est mis à sourire. Et puis, il s'est dit quand même, mon destin va changer un jour. C'est sûr que mon destin m'attend quelque part. La fortune m'attend quelque part. Une belle femme m'attend quelque part. Oui, mais comment savoir? Quand et où? Et c'est là qu'il s'est souvenu que quand il était petit, on lui racontait que le bon Dieu, c'était un grand bonhomme qui habitait tout en haut de la plus haute des montagnes. Oui, on lui disait ça surtout quand il faisait des bêtises. On lui disait attention, hein, parce qu'il est là-haut et il te regarde. Alors il s'est dit, ben voilà, lui là-haut qui sait tout et qui voit tout, je vais aller lui demander quand mon destin va changer. C'était une bonne idée. Et il s'est mis en chemin. Le premier jour, il était en train de traverser une forêt et voilà qu'il y rencontre un loup. Et le loup l'arrête et lui demande « Où cours-tu si vite, grand voyageur ?»« Je m'en vais voir Dieu parce que j'ai une question à lui poser. »« Pourrais-tu me rendre un service ?» a fait le loup. « Pourquoi pas ?» a répondu le berger. « Eh bien voilà !» Tu diras à Dieu que tu as rencontré un loup qui court la montagne depuis des mois sans jamais rien trouver à manger. Dis-lui que s'il m'a mis sur terre pour m'y faire mourir de faim, c'est vraiment pas la peine. Et demande-lui ce que je dois faire pour enfin trouver quelque chose à me mettre sous la dent. C'est d'accord, a fait le berger, et il est reparti. Le lendemain, il était en train de traverser une petite vallée, et voilà qu'il y rencontre une jeune fille. La jeune fille l'arrête et lui demande « Où cours-tu si vite, grand voyageur ?»« Je m'en vais voir Dieu parce que j'ai une question à lui poser. » « Pourrais-tu me rendre un service ?» a fait la jeune fille. « Pourquoi pas ?» a répondu le berger. « Eh bien voilà, tu diras à Dieu que tu as rencontré une jeune fille qui est belle, qui est riche, probablement pas modeste, mais qui est toujours triste. Et elle ne sait pas pourquoi. Demande-lui comment ça se fait. Demande-lui ce qu'elle doit faire pour enfin découvrir le sourire. « C'est d'accord, » a fait le berger, et il est reparti. Et il est enfin arrivé au pied seulement, hein, de la plus haute des montagnes. Et là, c'est devenu dur, c'est devenu raide. Un soir, il s'est arrêté au bord d'un torrent, les orteils dans l'eau fraîche, sous un grand sapin. Et le sapin s'est mis à lui parler. « Où cours-tu si vite, grand voyageur ?»« Je m'en vais voir Dieu parce que j'ai une question à lui poser. »« Pourrais-tu me rendre un service ?» a fait le sapin. « Pourquoi pas ?» a répondu le berger. « Eh bien voilà, tu diras à Dieu que tu as rencontré un sapin, qui a un gros tronc, des jolies branches, et pourtant, il n'y a jamais aucune aiguille sur ses branches. Demande-lui comment ça se fait. Demande-lui ce qu'il doit faire pour enfin avoir des aiguilles sur ses branches. « C'est d'accord, » a fait le berger, et il est reparti. Et c'est comme ça qu'il a enfin fini par arriver en haut de la plus haute des montagnes. Et là, devinez qui était là, assis sur un gros rocher, bien sûr, avec sa belle barbe blanche. Dieu. Je vous fais remarquer, je ne fais pas tout le temps remarquer, mais je trouve que c'est important quand même, que c'est quand même un moment dans l'histoire de l'humanité primordial, parce que pour la première fois, depuis le temps, une preuve de l'existence de Dieu, pour vous spécialement ce soir. Non mais c'est vrai, hein, voyez. Donc notre pauvre berger, lui, s'est fait tout petit, s'est incliné bien bas, il a fait « Votre grandeur, vous qui êtes là, vous qui contemplez le vaste monde à vos pieds, vous qui nous regardez nous agiter comme d'infimes petites fourmis, vous m'avez vu, vous avez vu la peine que je prends. Vous avez vu le mérite que j'ai. Est-ce que vous pouvez me dire si mon destin va changer un jour ?» Et voilà que Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit « Oui, ton destin t'attend. Une belle femme t'attend. La fortune t'attend. Ton destin t'attend, mais à une condition, c'est que tu cours du plus vite que tu pourras après ton destin sans jamais perdre une minute et que surtout, lorsque tu le rencontreras, tu ne le rates point. » Et bien sûr, le berger n'a pas oublié, vous vous souvenez, de poser les questions concernant le loup, la jeune fille, le sapin. Qu'a-t-il rencontré en premier en descendant ? Bien. Des fois, les gens ils me disent le loup. Non, le sapin. Et le sapin fait « Alors, qu'a dit Dieu à mon sujet ?» Alors, Dieu m'a dit qu'il y a entre tes racines un coffre plein d'or. Que c'est cet or enterré là qui empêche tes racines de puiser dans la terre toutes les bonnes choses qui permettraient enfin à tes branches d'avoir des aiguilles. Suffit que quelqu'un creuse, enlève cet or pour que toi tu aies des aiguilles. Alors le sapin a regardé le berger puis il a fait « Berger, va chercher une pioche, creuse, on sera tous les deux heureux, moi j'aurai mes aiguilles et toi tu seras riche. » Mais le berger a répondu « Je suis désolé, j'ai pas le temps. Dieu m'a dit de courir le plus vite possible après mon destin. Sans jamais perdre une minute, je dois repartir. » Et il est reparti. Qu'a-t-il rencontré ensuite ? La jeune fille a fait « Alors, qu'a dit Dieu à mon sujet ?» Alors, Dieu m'a dit qu'il faut que tu cours la montagne jusqu'à ce que tu rencontres un beau jeune homme. Ce jour-là, tu deviendras amoureuse, vous vous marierez et tu découvriras le sourire. Alors la jeune fille a regardé le berger, puis elle a fait « Berger, marions-nous et je vais découvrir le sourire. » Mais le berger a répondu « Je suis désolé, j'ai pas le temps, Dieu m'a dit de courir le plus vite possible après mon destin sans jamais perdre une minute, je dois repartir. » Et il est reparti. Qu'a-t-il rencontré ensuite ? Le loup a fait « Alors, c'est difficile à faire le loup. Alors, qu'a dit Dieu à mon sujet ?» Tout d'abord, le loup, faut que je te raconte, parce que tu sais qu'après t'avoir quitté, j'ai rencontré une jeune fille qui avait perdu le sourire. J'ai rencontré un sapin qui avait pas d'aiguille. Ils m'ont tous les deux demandé de parler de leurs problèmes à Dieu. Alors, pour la jeune fille, c'est qu'il lui fallait un fiancé. Pour le sapin, c'est qu'il y avait un coffre plein d'or qui dérangeait ses racines. Tu penses bien qu'ils m'ont tous les deux proposé l'une de me marier avec elle, l'autre de récupérer l'or. Mais moi, comme Dieu m'avait dit de courir le plus vite possible après mon destin sans jamais perdre une minute, je suis reparti, j'ai pas attendu. Oui, mais pour moi, qu'a dit Dieu ? A fait le loup. Alors, Dieu m'a dit qu'il faut que tu cours la montagne jusqu'à ce que tu rencontres un imbécile. Ce jour-là, tu le mangeras et tu seras rassasié. Alors le loup a fait... Je crois que j'aurais beau courir longtemps la montagne, jamais je n'arriverai à trouver un aussi bel imbécile que toi. Et sur ces mots, il le dévora tout cru. Ça vous fait sourire ? C'est quand même pas drôle pour le berger. Ouais, c'est bien pour le loup. Deux jours plus tard, qu'est-ce qui se passe quand on meurt deux jours plus tard ? On va au cimetière, voilà. On a accompagné le pauvre berger. Alors, ensuite, on s'est réunis, le plus près, c'est l'auberge des chasseurs. Parce que l'auberge des chasseurs, c'est à la lisière de la forêt, pas loin du cimetière. On s'est réunis là, et je ne sais pas si vous avez participé à ce genre de cérémonie quelquefois. On boit quelques canons, parce qu'il fait frais, il faisait frais au cimetière, vous voyez, donc on boit quelques canons. Puis en même temps, on se serre les coudes. On se tient chaud, on est content d'être là parce que tout compte fait, si c'était son tour, c'était que c'était pas notre tour à nous, un peu, vous voyez. Et donc on est quand même bien d'être là. Et puis on se met à discuter. Et puis on parle de lui, du pauvre berger. On se dit que c'est dommage parce que il aurait pu être heureux avec ses quelques brebis, mais toute sa vie il était obsédé par cette histoire. Il voulait de la terre. Quel dommage. Quel dommage qu'il n'ait pas trouvé une solution. Et puis on a culpabilisé un petit peu aussi, on s'est dit quel dommage qu'on ne l'ait pas aidé, peut-être qu'on aurait pu un peu faire quelque chose pour lui, parce qu'on lui a donné plein de conseils, mais bon, c'était un petit peu pour se moquer de lui. Et puis il y en a d'autres, il n'est pas tout seul, qui n'ont pas beaucoup de terre pour leurs brebis. Peut-être qu'en sa mémoire, on pourrait essayer de faire quelque chose, enfin bref, au 4e, 5e vers, on s'est dit qu'on n'allait pas laisser les choses comme ça en l'état, on allait se revoir. Donc on s'est dit, dans 6 mois, on se donne rendez-vous à l'auberge des chasseurs. Et 6 mois plus tard, rendez-vous, l'auberge des chasseurs, tournée générale, bière pour tout le monde. Et on s'est remis à discuter. On a dit, ben oui, les paysans, si on les oblige à acheter la terre. Et puis là, il y en a un qui est arrivé, c'était Jean-Marie. Jean-Marie, c'est le beau-frère du pauvre berger. Il était comptable et amoureux des chiffres. Ouais, ça existe. Hein. Et donc, il a dit, voilà, moi j'ai regardé, j'ai vu un truc, c'est que la terre agricole... ça prend 20% d'augmentation tous les 10 ans. Et la terre agricole, ça disparaît à une vitesse pas possible. Imaginez, on s'est rendu compte qu'en 7 ans, en France, disparaît la surface agricole d'un département. Vous voyez, l'équivalent de la surface de terre agricole d'un département disparaît tous les 7 ans. Tous les 7 ans, tous les 10 ans, ça dépend un petit peu des chiffres, mais en gros, c'est ça. Vous voyez la vitesse à laquelle ça disparaît, il a fait. Et donc, si ça disparaît, ça devient rare, et d'où ça devient cher. Donc, on s'est dit, ben, dans ce cas-là, il ne faudrait pas que ce soit les paysans qui achètent la terre. Peut-être qu'on pourrait trouver une autre solution. On s'est dit qu'il faudrait faire un système où ce serait plutôt les citoyens qui achèteraient la terre. On s'est dit, et tout ça, il faut en rediscuter. Donc, on va se donner rendez-vous régulièrement à l'auberge des chasseurs. Et donc, rendez-vous 6 mois plus tard à l'auberge des chasseurs. Tournée générale, bien pour tout le monde. Et là, on s'est dit, maintenant on est bien parti, on va essayer de monter une association qui s'occuperait d'aider les paysans sans terre. Bon, on va lui donner un nom à l'association, tant qu'à faire. On s'est dit qu'on allait rester en lien autour des problèmes liés à la terre. Vous voyez, comment on pourrait l'appeler, je ne sais pas, mais pour rester en lien autour de la terre. Les liens de la terre. Voilà. Terre de liens, il y en a un qui a dit. Allez, voilà, c'était bon, je sais pas, on a choisi au hasard, Terre de liens. Donc c'était déjà quelque chose de bien. On appelait l'association Terre de liens et on s'est dit, ben, l'association, dans ce cas-là, elle a qu'à acheter les terres et elle les prêtera aux paysans. Donc c'était une bonne idée. On a dit, bon, on va réfléchir à tout ça. Rendez-vous dans 6 mois. 6 mois plus tard, auberge des chasseurs. Tournée générale. Bien pour tout le monde. Le Jean-Marie est arrivé. Il a dit, bon, écoutez, c'est temps qu'on se mette à agir parce que les paysans, ils sont tous endettés. Du coup, y en a la moitié qui gagne moins que 1000 euros par mois. Et il y en a même un tiers qui gagne moins de 350 euros par mois. Et puis il a fait, votre idée, c'est bien que l'association, elle achète de la terre, elle devienne propriétaire de la terre pour la prêter aux paysans, mais une association, ça ne peut pas faire du commerce, ça ne peut pas posséder de la terre. Donc il faut trouver autre chose. Donc il a regardé, il a dit, moi je vous propose une idée, on va créer une société qui possédera la terre. D'accord ? Cette société, elle possédera la terre, mais ce seront les gens de l'association quand même qui piloteront la société. Voilà. Et il a fait la société. Du coup, ça va être une société par action, comme il faut trouver de l'argent. On va demander à des personnes de devenir actionnaires de cette société, une société par action. Mais pour pas que les gens qui arrivent avec leurs actions déterminent la politique de la société, disent, moi, j'arrive avec 200 000 euros, mais je veux qu'on achète la terre de mon voisin, qui vaut rien, qui est tout en pente, qui est pleine de ronces et où il n'y a pas d'eau. Voyez ? Non. Il faut séparer l'argent qu'on apporte à la société et le pouvoir politique sur cette société. Donc, il y a un système qui existe, a fait Jean-Marie, c'est une société en commandite par action. C'est-à-dire que les gens qui apportent l'argent sont les financeurs et ce sont les adhérents de l'association. Vous prenez 20 euros, vous devenez membre de l'association Terre de Liens et grâce à votre participation à l'Assemblée Générale, à votre vote, c'est vous qui avez le pouvoir politique sur l'association qui décidez de quel type de ferme on achète, de quel type de production on met en place. Vous voyez, c'est intelligent, hein, on avait dissocié du coup le pouvoir politique du pouvoir financier sur l'association. Alors, on était contents parce qu'on avait vachement avancé. On s'est dit, bah, c'est bon pour cette fois, rendez-vous dans 6 mois, l'auberge des chasseurs. Mais il fait soif, hein. Tournée générale. Bien pour tout le monde. Là, alors, on a dit, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? On achète des terres, c'est bien. On les prête à des paysans. On dit, ben non, parce que les terres, quand même, il faut bien qu'on amortisse l'achat au fil du temps. Donc, on les loue à des paysans. Donc, des terres qu'on loue à un paysan, les paysans deviennent locataires et donc des fermiers, ça s'appelle. Et il y a un bail qui existe, donc il y a une législation du bail, ça s'appelle les baux ruraux, et donc ils ont un bail de 9 ans, reconductible, c'est très protecteur comme législation. Et là, on a commencé à dire, d'accord, ok, ils sont fermiers Terre de Liens, maintenant, ils signent un bail, ils versent leur fermage chaque année, ok, à l'association qui est propriétaire de la terre, et ils font ce qu'ils veulent. Ils font du maïs, ils sulfatent, vas-y, en veux-tu, ils... T'aimes pas le maïs, t'as qu'à manger autre chose. Bon, il aime pas le maïs. Bon, il aime pas le maïs conventionnel, c'est ça ? Ah oui, c'est ça qu'il voulait dire. Il aime pas le maïs conventionnel. Bon, il y en a eu d'autres aussi, ils ont dit non, 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 non. Les gars, ils vont pas faire du maïs conventionnel, on n'a pas à se décarcasser, acheter des terres pour ça. On s'est dit, comment faire alors ? On s'est dit, alors là, il y a eu un grand débat parce que entre-temps, il y a des gens qui étaient arrivés dans l'association parce que c'était des paysans qui étaient en agriculture biologique et qui étaient même... Plus loin que ça encore, ils avaient fait partie des premières réunions à l'auberge des chasseurs parce qu'ils avaient créé une ferme en biodynamie. La biodynamie, c'est le label Nature et Progrès, c'est du bio plus, plus, plus. Alors ceux-là, ils étaient venus à Terre de Liens parce qu'ils avaient une ferme, ils avaient des bâtiments qu'ils avaient rénovés, entretenus, ils avaient de la terre qu'ils avaient ressuscité, parce que c'était de la terre conventionnelle, mais ils avaient ressuscité la vie dans le sol, une terre qui valait très cher, une ferme qui valait très cher, et ils se sont dit, on ne trouvera jamais quelqu'un qui aura les sous pour acheter cette terre et faire de l'agriculture bio derrière. Donc qu'est-ce qui se passe quand on ne trouve pas quelqu'un qui a les moyens d'acheter ? Eh bien, ce sont les voisins qui achètent les terres, donc les voisins conventionnels qui sont à côté. Ça s'appelle partir à la découpe. C'est-à-dire que les deux gros paysans de la commune prennent chacun la moitié de la ferme. Ça repart en maïs que Serge aime bien. Et puis, les bâtiments, bah, c'est vendu pour faire autre chose. Ça devient plus... Et ça fait une ferme qui disparaît. Et des emplois qui disparaissent. Donc ces paysans qui étaient là, qui étaient en agriculture bio, ont dit, ben nous, on va exiger que les fermiers Terre de Liens soient en agriculture biodynamique, puisqu'eux, ils étaient en biodynamie. Donc le bio plus, plus, plus. Puis il y en a qui ont dit, oh ben non, c'est vachement dur la biodynamie, ça coûte cher à produire en plus, tout ça. Non, on n'a qu'à leur dire de faire une agriculture paysanne. Vous voyez, une agriculture où ils promettent de faire une agriculture propre, les circuits courts, favoriser l'emploi, et ils promettront. On s'est dit, ouais, mais une promesse, On sait ce que c'est qu'une promesse. Donc après moult discussions, on a décidé d'une chose, qu'il y a un label, il est ce qu'il est, il est imparfait, mais il existe, un label qui est devenu européen, le label AB, agriculture biologique, et là il y a des certificateurs, c'est-à-dire que ce label, vous êtes obligé chaque année d'avoir des certificateurs qui viennent, qui vérifient vos comptes, ce que vous avez dans votre grange, votre terre, et donc vous êtes certifié, donc dans le bail, on va mettre l'obligation de certifier votre production chaque année en agriculture biologique. Voilà. Donc, on a maintenant une société qui s'appelle La Foncière qui achète des fermes et qui les loue à des paysans qui sont en agriculture biologique. Et on a décidé que cette société ne revendrait pas les terres. Donc, les terres sont protégées. Elles sont agricoles. Elles ne vont pas devenir constructibles. Donc, en même temps, on protège les terres. Mais quand je dis « on », qui est ce « on » ? Et c'est là où ça devient intéressant parce que les gens qui étaient à l'auberge des chasseurs, ce sont eux qui ont fait le travail, bénévolement. C'est-à-dire que l'association Terre de Liens, elle s'est déclinée en association territoriale. Dans toutes les régions, association Rhône-Alpes, PACA, ainsi de suite, il y a une association Terre de Liens dans toutes les régions. Et là, il y a des groupes de bénévoles, des groupes locaux. Il y a un groupe local ici dans le Rhône, il y a un groupe en Savoie, ils en ont deux en Isère, c'est des gens riches. Voilà. Ce sont des bénévoles qui font le travail, qui sont soutenus quand même par des salariés. On a 2,5 temps de salariés en Rhône-Alpes. Et des groupes de bénévoles sur le territoire, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils essaient, ils communiquent autour de l'idée Terre de Liens pour essayer de voir s'il n'y a pas des paysans, des propriétaires qui seraient prêts à vendre leur ferme à Terre de Liens, avoir ce type de projet-là. Et ensuite, quand ils ont un propriétaire qui est prêt à vendre cette ferme-là, ils reçoivent aussi des porteurs de projets, des gens qui ont un projet d'installation en agriculture, sachant que la moitié maintenant des gens qui veulent s'installer en agriculture ne sont pas issus d'un milieu familial agricole et donc n'ont pas d'héritage. Et donc on les reçoit, on en reçoit toute l'année régulièrement, qui viennent nous demander des conseils en même temps sur l'acquisition du foncier, même sur les formations, et puis aussi qui viennent nous voir parce que les groupes Terre de Liens, ça leur permet de participer à un réseau. Dans notre groupe de bénévoles, on a des anciens maires, on a des artisans qui peuvent les aider à évaluer le prix d'un bâtiment, les travaux à faire. Voilà, donc groupe de bénévoles qui travaillent, même si on n'est pas issu du monde agricole, on travaille autour de ça. Et c'est des groupes de bénévoles qui trouvent des projets, qui commencent à étudier les projets et ensuite qui se font conseiller par les salariés. Et comme ça, il y a des allers-retours entre le groupe de bénévoles, la région. Et lorsque le projet est vraiment prêt, eh bien, il passe devant un jury national de bénévoles là aussi, mais qui sont des experts. Et on décide d'acheter la ferme. Et ensuite, il faut trouver les sous. Voilà. Alors, on cherche des actionnaires. Alors, le principe, c'est que on cherche des gens qui veulent placer un peu d'argent. On achète une action Terre de Liens 100 euros. On a été reconnu d'utilité publique par la puissance publique, par l'État. Et du coup, on offre droit à une défiscalisation. Une action qu'on achète 100 euros, si on décide de laisser l'argent immobilisé pendant 7 ans, eh bien, on va avoir 18% de défiscalisation. C'est-à-dire que l'année après l'achat, on va toucher 18 euros pour nos 100 euros. Et au bout des 7 ans, on peut revendre l'action et récupérer nos 100 euros qui sont devenus 103 ou 104 euros, qui auront un petit peu progressé. Voilà. Vous allez me dire, si les gens récupèrent leur argent en sortant, comment vous faites pour vous revendre les fermes ? Alors, pour ça, on a dans nos statuts, on a 30%, je crois que c'est 30 ou 25%, 30% des sommes qui sont immobilisées, qui sont en banque, qui sont immobilisées pour les gens qui sortent du système. C'est-à-dire que tout le montant des actions ne sert pas à acheter des fermes. Il y a aussi une partie qui sert à rembourser les gens qui sortent du système. Voilà comment ça fonctionne, voyez ? Donc ça mérite d'arrêter là, de recommencer dans 6 mois. Rendez-vous dans 6 mois à l'auberge des chasseurs. Tournée générale, bien pour tout le monde. Et là, on a eu un cas de conscience. Parce qu'il y a un notaire qui a écrit à Terre de Liens parce que un petit père dans un pays de montagne, avait mis sur son testament qu'il léguait sa ferme à Terre de Liens. Tous ses biens, la terre, les bâtiments, tout ça. Et là, on s'est rendu compte que la foncière Terre de Liens, la société par action, c'était pas vraiment le bon outil. Et Jean-Marie est arrivé. Il a dit, moi, je sais. Il existe un outil qui reçoit les donations et les legs. Et cet outil, ça s'appelle une fondation. Et la fondation, c'est un outil qui a été créé exprès, ça permet d'échapper à des taxes, à des impôts, et puis ça sécurise au sens où une fondation n'a pas le droit de revendre, on peut inscrire dans les statuts qu'elle n'a pas le droit de revendre ce qu'elle reçoit, et donc on a créé une fondation Terre de Liens qui accepte les dons et les legs. Et si vous n'avez pas de ferme, vous pouvez quand même léguer le restaurant ou l'hôtel que vous possédez dans le 16e à Paris à Terre de Liens. Parce que ce qui est agricole, on n'a pas le droit de le vendre, mais votre hôtel, on le vendra et on achètera des fermes avec. C'est juste parce qu'il y en a, ça pose des problèmes, j'ai vu, que ça ne soit pas un bien agricole, mais vous pouvez quand même nous le céder. Voilà, donc on avait deux outils, la fondation pour accepter les dons, la foncière qui achète les fermes, et ça, voilà, donc 2003, ça a été l'enterrement du pauvre berger, c'est ça ? 2003, création de l'association, 6 mois plus tard, voilà. 2006, achat de la première ferme Terre de Liens, et maintenant on en est à 170 fermes qui sont propriétés de Terre de Liens. On a une trentaine de projets partout en France qui sont en émergence. On a des groupes locaux un petit peu partout. Et ce qui est très intéressant en tant que bénévole, c'est qu'on est on a des formations, on est formé, on est soutenu par des salariés. Moi, je n'y connaissais rien à l'agriculture. Maintenant, je discute avec le président, le directeur de la SAFER. Je rencontre le directeur de la Chambre d'agriculture. Je vois des présidents de communautés de communes et je leur parle agriculture. J'ai rendez-vous avec l'un d'eux là, d'ici une dizaine de jours. Et voilà, au début, je me dis non, je ne veux pas y aller. Moi, rencontrer le directeur de la SAFER, c'est pas fou. Et bien, si, ben voilà. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'on dit à ces gens-là, nous, les citoyens, on a un regard sur le monde agricole. C'est-à-dire l'alimentation et l'agriculture, c'est primordial. C'est-à-dire manger et se loger, ça paraît être quand même les deux choses les plus importantes dans la vie d'abord. Voyez ? Et donc, nous, on a un droit de regard là-dessus et on dit que c'est important de donner notre avis. Et donc, on donne notre avis. Et on est en relation avec des collectivités. Et du coup, maintenant, les collectivités commencent à prendre l'habitude de travailler avec Terre de Liens. Par exemple, une commune, un maire s'aperçoit que dans la nappe phréatique, il y a des infiltrations de nitrates, de produits. Eh bien, il achète 4 hectares de prairies au-dessus de la nappe phréatique et il les loue à un paysan pour faire du foin. Comme ça, il n'y a plus d'infiltration. Puis il se dit, ouais, mais après les prochaines élections, le prochain maire, il va dire, moi, j'ai pas vocation à posséder 4 hectares, je les revends. Donc il s'est dit, pour sécuriser la chose, je vends ces 4 hectares à Terre de Liens. Et je sais que définitivement, ces terres seront agricoles, mais en plus, en agriculture biologique. Donc, ma nappe sera protégée pour jusqu'à la fin des temps, parce qu'on travaille aussi pour l'éternité, nous. Voilà, donc du coup, vous voyez ? Donc, on a vocation à travailler avec les élus et avec le monde politique. Et après, à un autre niveau, au niveau national, on a des gens, des salariés au niveau national qui s'occupent de ce qu'on appelle le plaidoyer, mais moi, j'appelle le lobbying. Hein. Et tout simplement, ces gens-là participent à l'écriture de certains projets de loi concernant le monde agricole. On consulte Terre de Liens maintenant au niveau national pour certains projets de loi. Voilà, il y a un projet de loi qui est dans les tiroirs sur le foncier agricole. Eh bien, on participe. Et au niveau européen, il y a une réforme de la PAC qui est en chantier, ben on essaie aussi de participer. On essaie, hein, parce que la PAC, c'est quand même une grosse bécane. Voilà. Et donc, on est quelques-uns. Là, on est quelques bénévoles ici. Et en particulier en Savoie, on a un projet agricole sur lequel on travaille depuis 1 an et demi. Et ça, Guillaume qui est là, c'est lui qui va vous en parler. Parce que vous m'avez assez entendu. Hein. On a bu assez de bière à l'auberge des chasseurs, donc on va changer un petit peu.
Merci Gilbert. Bon, je crois que tu nous as fait une super présentation. Le monde agricole, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est même très compliqué. Oui, si vous, comme ça vous m'entendrez mieux. Le monde agricole, c'est très compliqué. Moi, je suis pas issu du milieu agricole, mais aujourd'hui, en fait, c'est une réalité. De moins en moins de personnes sont issues du monde agricole.
Deux petites choses. D'abord, c'est enregistré. Donc, du coup, quand vous posez vos questions, vous nous faites signe, on vous prête le micro. Il faut que vous parliez que dans le micro. Voilà. Pas d'autre solution. Il n'y a que ça. Et sinon, on a tourné une petite vidéo qui raconte l'histoire de 7 minutes, qui raconte l'histoire de la création de la ferme sur laquelle on est en train d'aider à installer Guillaume depuis le départ avec le vieux monsieur de 90 ans qui a dit « Moi, je veux que ma maison redevienne une ferme, je la vends en Terre de Liens jusqu'à maintenant. » C'est très sympa. Donc, si vous laissez votre adresse mail sur la feuille qui est là, je vous envoie un mail avec le lien qui vous permet d'aller sur cette vidéo. Donc, vous nous verrez en train de monter le projet dans l'avant-pays savoyard. Donc, c'est sympa. Donc, voilà, avant de partir, vous pouvez laisser votre adresse mail pour avoir ça. Et puis, du coup, maintenant, ceux qui ont une question, vous nous faites signe et je vous fais passer le micro.
J'avais cru comprendre que Terre de Liens aidait, enfin, louait la terre et pas les bâtiments. Alors j'ai peut-être mal compris.
Il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Il arrive qu'on ne loue que de la terre. C'est-à-dire des gens qui ont un besoin d'acheter un supplément de terre pour leur ferme et qui n'ont pas les moyens. Et nous, on achète quelques hectares. Il y a des fermes dont on ne possède que quelques hectares. Il y a des fermes où on possède la terre et les bâtiments agricoles. Et des fermes où on possède la terre, des bâtiments agricoles et le bâtiment d'habitation. Voilà, donc tous les cas de figure sont possibles.
Par exemple, dans notre cas précis, Terre de Liens achète des terrains et la ferme, qui sera aussi un lieu d'exploitation et d'habitation.
Est-ce que par votre intermédiaire, donc Terre de Liens, il est possible d'accéder à la possibilité d'aider, même bénévolement, parce qu'il y a certaines périodes dans l'année qui sont bien chargées, en même temps on se forme, voilà, parce que woofing, j'ai pas réussi.
C'était une question ou c'était une affirmation? Vous dites qu'il est possible d'aider? D'accord. Ouais, bah Guillaume, tu peux dire oui. Alors, est-ce que si on te donne un coup de main, ça t'y va ou...
Oui. Moi, en fait, j'ai fait du woofing du coup pendant 5 ans dans toute l'Europe pour aller voir des systèmes différents et des fermes. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais rendre la monnaie de la pièce. Donc, le woofing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une aide qu'on apporte 4 heures environ par jour en échange du JT du couvert. Donc, il ne faut surtout pas appeler ça travail. En France, c'est un statut qui est un petit peu particulier. Ce n'est pas tout à fait légal, mais c'est quand même toléré. Et du coup, aujourd'hui, donc moi, nous, on reçoit des aides bénévoles de différents types. Donc, soit des personnes qui sont membres d'associations. Donc, ça peut être Terre de Liens. On peut organiser des chantiers participatifs, par exemple un montage de serre qu'on a fait avec une association. Et à ce moment-là, on accueille les bénévoles. C'est l'occasion aussi d'un bon festin. Et puis en même temps de partager un petit peu nos expériences. On a aussi des bénévoles qui viennent de l'AMAP. Donc à ce moment-là, c'est les gens qui sont engagés sur un an, ils peuvent aussi venir nous aider. Et comme c'est dans le cadre de cette association-là, ils ont le droit aussi d'être sur nos terrains. Parce que bon, sinon nous, si on accueille des gens en fait sur nos terrains et qu'il n'y a pas un statut ou quelque chose, si à ce moment-là on se fait contrôler, c'est nous qui trinquons et ça peut coûter cher. Donc au niveau de Terre de Liens aussi, c'est une association et donc on peut organiser comme ça des journées ou des, selon les affinités de chacun aussi, hein, ce qu'ils veulent découvrir, ce qu'ils veulent faire, si c'est plutôt le désherbage, si c'est plutôt le plantage ou plutôt monter une serre. Donc, ou même des fois ils participent, donc les bénévoles peuvent participer à la rénovation du bâti.
Et puis sur l'acquisition, tout à l'heure pour continuer sur l'acquisition, il arrive aussi qu'on a des compléments d'acquisition. On a une ferme qui est à Terre de Liens depuis 3 ou 4 ans et il y a une opportunité, on rachète un bâtiment supplémentaire ou des hectares de terre supplémentaires. La ferme peut se construire aussi dans le temps.
Comment est déterminé le coût de la location pour les paysans et est-ce qu'il arrive qu'il y ait des fermes qui ne soient pas louées? Hein, que Terre de Liens soit propriétaire de ferme qui ne soit pas louée.
Oui, alors le coût de la location, ça c'est très clair. Il y a des barèmes préfectoraux, les baux ruraux, c'est très encadré. Donc pas le choix, en fonction de l'état de votre terre, si c'est classé prairie, labour, altitude, pas, il y a tout un classement. Et c'est la location, c'est en hectare, en fonction du classement. Et puis la même chose pour le bâti, il y a un barème spécial. La location de l'habitation, c'est pas le même prix. Si l'habitation fait partie de la ferme, il y a une location qui fait partie du bail rural et les prix sont plus bas que les loyers dans le commun du bâti. Tout ça, c'est encadré. Hein, donc, vous n'avez pas le choix. Ça ne se discute même pas. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'on a des fermes sans paysans? Seigneur, protégez-nous de ça. C'est très rare, mais ça peut arriver. Quand on achète une ferme, on décide de l'achat que parce qu'on a un projet, des porteurs de projet avec sur la ferme. Mais par contre, il peut arriver qu'au bout de 2 ans, le porteur de projet ne se sente pas à la hauteur ou ait un événement de la vie qui fasse qu'il abandonne. Et si on ne trouve pas un porteur de projet aussitôt, ça prend du temps. La ferme peut rester entre guillemets en déshérence, enfin peut rester non occupée pendant un certain temps. Et là, c'est embêtant parce qu'une terre qui n'est pas travaillée pendant 1 an, 2 ans, on a eu ça en Savoie, on a des mauvaises herbes qui poussent, on a des problèmes. Et donc, voilà, et ça, il faut savoir le gérer, c'est quelque chose. Le passage d'un fermier à l'autre, c'est un moment un petit peu sensible de la vie d'une ferme Terre de Liens.
Juste une petite chose aussi sur les loyers. Souvent, lorsque Terre de Liens achète un bien, c'est un bien qui n'est pas forcément bien entretenu. Et du coup, il va falloir mettre des rénovations dans le budget. C'est des choses qui sont prévues. Et en fait, on fait un état des lieux de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir besoin en termes de travaux Et après, ce qui est avantageux aussi pour le locataire, c'est que Terre de Liens a la possibilité d'amortir ses investissements sur 30 ans. Donc ça veut dire derrière, nous, un loyer qui ne va pas être démesurément important.
Ouais, il y a une question que je voulais poser. L'entretien des bâtiments, ça se passe comment? Parce que je pense que vous êtes propriétaire donc du coup de beaucoup de bâtiments. Mmh. Alphonse s'entretient plus ou moins, ça dépend ce qu'on va en faire, mais les bâtiments, il faut qu'il y ait un suivi, quoi.
Oui, bah c'est un peu ce que j'ai dit. Donc avec l'état des lieux de départ, donc ça permet à Terre de Liens de voir, ok, là il va y avoir par exemple la toiture à refaire, ou ici le plancher, ou ici par exemple aussi de la mise en conformité ou de la mise en sécurité. Donc ça, c'est des choses qui sont obligatoires et qui sont prévues, et qui sont aussi prévues non seulement au jour J, mais dans le temps. Donc là, par exemple, nous on a une phase de travaux, une tranche de travaux qui devrait commencer d'ici un an et demi. À partir du moment où la ferme est vendue, pour mettre en conformité.
Oui. Et donc, du coup, on a acheté les premières fermes Terre de Liens, donc 2006. Et au début, ça a été l'enthousiasme. Et donc, on a acheté un petit peu tout ce qu'on a trouvé. Et on a un parc immobilier important, un parc immobilier à restaurer et à entretenir. Et donc, ça fait beaucoup de travail. Et maintenant, dans les règles qu'on se donne pour l'achat des nouvelles fermes, on essaie d'avoir du bâti en relativement bon état pour ne pas encore amasser une somme de travaux à gérer. Voilà, donc ça fait partie aussi des contraintes, parce que la terre, c'est bien, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour nous, propriétaires, mais le bâti ici. C'est vrai que c'est une charge importante, l'immobilier.
Je pense aussi que Terre de Liens est montée en compétences avec différentes expériences et depuis a appris à comment mieux gérer dans la durabilité, dans la pérennité les biens.
Oui, Geneviève, je viens de la lutte de Notre-Dame-des-Landes. Là, juste pour vous signaler qu'il y a d'autres actions citoyennes et d'autres nécessités pour la maîtrise du foncier. Vous savez que le projet d'aéroport a été abandonné. Oui, le conseil départemental, pour une zone qui est exceptionnelle à sauvegarder, il veut faire un petit coup de Monsanto, un petit coup d'écolo, un petit coup de Zadif, etc. Donc complètement un morcellement de la zone. Et donc la question se pose aussi, mais là c'est tout à fait un autre problème que des fermes isolées, si vous voulez. Donc la question se pose aussi d'acquérir du bâti et des fonciers, et du foncier. Donc il y a eu, alors effectivement, il y a eu des discussions aussi avec Terre de Liens et on est en relation avec eux, ils sont prêts à nous aider. Donc il y a eu ce qu'on appelle un fonds de dotation qui s'appelle La Terre en commun pour racheter ce qu'on va pouvoir, des bâtis et des terres de ce qui était le territoire de la ZAD. Donc il y aura une conférence demain après-midi là-dessus. Et je peux vous donner les références de sites, etc., pour vous renseigner. On n'est pas dans une optique de concurrence, pas du tout. D'ailleurs, on travaille avec les gens de Terre de Liens, puis ça n'aurait pas vraiment, ça n'aurait aucun sens de parler de concurrence. Mais cette nécessité que les citoyens, à un moment, se retroussent les manches pour ne pas laisser faire n'importe quoi, eh bien, créons tous ensemble les outils nécessaires et travaillons en commun. Voilà, merci.
Oui, super.
Voilà, moi je vais peut-être hériter de 7 ou 10 hectares de ma tante. Elle m'a dit qu'elle m'avait mis, ça se passe en Bretagne. Et je me demandais bien ce que j'allais pouvoir faire de ces 7, ce que je vais pouvoir faire de ces 7 ou je ne sais pas exactement, entre 7 et 10 hectares. Et j'avais une question, c'est qu'elles sont en location. Et comment ça se passe? Parce que moi, j'aimerais si je les vends, c'est pour être sûr que ça finisse en bio. Et le locataire qui est dessus, est-ce qu'il n'est pas prioritaire?
C'est l'un des problèmes. Oui. C'est la protection du fermier. C'est-à-dire que le fermier, on ne peut pas le virer, entre guillemets, comme ça. Et donc, du coup, lui, il restera en place. Et donc, ça ne va pas être facile de récupérer vos terres. Voilà, le problème des fermes sur lesquelles des fermiers sont installés, on ne peut pas toujours les acheter parce qu'ils sont prioritaires et ils peuvent rester avec les terres longtemps. Voilà, c'est un problème. C'est 9 ans, mais reconductible automatiquement. C'est-à-dire qu'un paysan qui travaille une terre en tant que fermier, vous ne pouvez récupérer à sa place que si vous le prévenez 18 mois auparavant, avant la fin des 9 ans, 18 mois avant la fin du bail. Mais si vous êtes vous propriétaire et que c'est vous qui vouliez travailler la terre, ou si c'est votre fils. Mais Terre de Liens n'est pas exploitant lui-même. Donc Terre de Liens ne peut pas récupérer une terre qui est travaillée par un fermier. Donc le fermier pourra continuer à travailler après son bail sera reconduit. Donc on ne peut pas. Mais en même temps, c'est un des effets pervers de la loi, mais la loi est faite pour préserver les paysans. Et on ne peut pas non plus enlever la terre à un fermier comme ça. Donc voilà, c'est comme ça.
Je suis Terre de Liens aussi. J'apporte une petite précision. Donc tout ce qu'il vient de dire, c'est tout à fait juste. Nous faisons que des baux de 9 ans actuellement. On a fait autre chose avant. Mais il existe aussi des baux de 18 ans, des baux de carrière, c'est-à-dire jusqu'à la retraite. Puis il y a aussi des baux précaires. Hein, c'est plus vers les communes, les collectivités qui veulent pas que leur terre, qui veulent pouvoir disposer à tout moment de leur terre, ils font un bail précaire et puis. Et après, le paysan, ben, il est viré tout de suite dès qu'ils veulent la reprendre. Voilà.
Juste un petit supplément de question. Quand on est propriétaire, donc comme la dame qui vient de parler, quand on est propriétaire d'une terre et qu'il y a un fermier dessus, on ne peut pas lui demander de changer ses méthodes de culture pour passer au bio ou... On ne peut pas intervenir dans ce sens-là. Quoi. Enfin, on peut lui demander, voilà, mais on ne peut pas lui imposer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tant que propriétaire, on n'a pas de... D'accord.
Non, papa, tu peux toujours demander, mais lui, il peut dire non. Voilà, si, je répète pour le micro, si les salariés, si c'est ton salarié, tu peux lui opposer. Et par contre, si c'est le début du bail, tu peux, là, décider en commun avec lui de signer un bail BRE, bail rural et environnemental, avec des consignes précises environnementales, dont la consigne de la production biolabellisée. Mais ça se fait au début du bail et ça se fait en négociation avec le fermier.
Alors oui, c'est vrai que je n'ai même pas précisé. Nous, on est dans l'avant-pays savoyard. La ferme du Haut-Saumon est à Yenne, donc juste de l'autre côté du tunnel du Chat, derrière Aix et Chambéry. Voilà, donc ça nous permet une certaine proximité avec un grand bassin de population. C'est pour ça qu'on n'a pas de problème au niveau des débouchés. Derrière cette montagne, en fait, on a des terres qui sont très fertiles. Notamment dans la plaine, on a atteint même des records au niveau national sur une culture conventionnelle au maïs. La plaine du Rhône, le sillon alpin, plaine du Rhône. Ouais.
Vous pouvez nous parler des bénévoles, des gens qui sont des néo-ruraux bénévoles comme vous, puisque vous disiez que vous n'aviez aucune formation dans l'agriculture et que vous avez dû apprendre avant de vous impliquer dans Terre de Liens.
Le parcours classique, c'est des gens comme vous qui se disent ça m'intéresse. Donc on les invite à venir à une réunion. On a des réunions, là ça va être tous les mois maintenant parce qu'on a beaucoup de choses sur la Savoie. Donc vous venez à une réunion, vous voyez un petit peu de quoi ça traite. Voilà, bah, les travaux sur les fermes. On a plusieurs fermes en Savoie, les fermes qu'on a en cours d'acquisition. Et puis on vous invite à venir sur un stand. Bon ben là c'est ici à Primevert. Ou nous, ça va être en Savoie, la foire bio de Savoie. Et sur le stand, eh ben vous allez être avec nous et on va parler de Terre de Liens. Et là, vous allez entendre comment on parle de Terre de Liens aux gens qui circulent. Et c'est comme ça que vous allez apprendre. Et très rapidement, en une demi-journée sur un stand, vous êtes capable, vous, le stand suivant 15 jours après, de parler de Terre de Liens à des gens qui passent. Et voilà, premier travail. Et puis après, le deuxième travail, ben vous allez venir avec nous sur une visite de ferme pour quelqu'un qui nous propose de vendre sa ferme à Terre de Liens. La première visite, ben vous allez venir avec un petit groupe de 3-4 personnes. Et souvent, même si on n'est pas du métier, on voit que le gars, il veut nous vendre sa ferme parce qu'elle est invendable et qu'il se dit Terre de Liens, c'est des nazes, ils n'y connaissent rien, ils vont me l'acheter. Voilà. Ou alors, c'est du pognon, c'est des citoyens qui sont des actionnaires qui sont pleins de pognon, donc je vais pouvoir faire un maximum de fric. Ça se voit, vous voyez. Ou alors, on voit que le bâti est en très mauvais état. Voilà. Donc, on va commencer à regarder ces choses-là. Et même quand on ne connaît pas, c'est des choses qu'on arrive à faire petit à petit. Et après, on monte en compétences. On a à Lyon, on a des formations gratuites et on passe la journée avec des gens qui nous expliquent ce que c'est que la SAFER, le rôle des chambres d'agriculture. Après, on va un petit peu plus loin. Mais n'importe qui est suffisamment compétent pour dès le départ devenir bénévole Terre de Liens. C'est pas voilà. Et puis quand si c'est rien faire du tout, on lui dit bah tu vas aller aider Guillaume à monter une serre, dont je rigole, une demi-journée. Mais voilà, non, mais ça se fait petit à petit. Mais voilà.